VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'affaire du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, porté disparu depuis 2 semaines. À Riyad, en Arabie Saoudite, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a déclaré, en recevant ce mardi le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, que son pays et les États-Unis étaient des alliés forts et anciens. Et ce, sur fond de tension après la disparition du journaliste et dissident saoudien. C'est la première des deux rencontres de crise prévues entre M. Pompeo et le prince Mohamed, considéré comme l'homme fort du royaume wahhabite. Le chef de la diplomatie américaine avait été reçu auparavant par le roi Salman pendant une 20 minutes. L'Arabie saoudite s'apprêterait à reconnaître que Jamal Khashoggi a été tué au consulat de son pays à Istanbul, en Turquie, où il s'était rendu au début du mois. C'est ce qu'affirment des médias américains. Eric Manirakiza.
Selon des sources citées par ses confrères, la mort de Khashoggi serait le résultat d'un interrogatoire qui a mal tourné. CNN News indique que ceux qui étaient derrière cette opération pouvaient avoir eu l'intention de kidnapper Jamal Khashoggi et de le ramener en Arabie Saoudite pour interrogatoire. Riyad devrait, dans son rapport, soutenir que l'opération avait été menée sans autorisation officielle et que ceux qui sont responsables de la mort de Khashoggi répondront de leurs actes. Auparavant, le président américain Donald Trump avait suggéré hier que des éléments incontrôlables pourraient avoir tué le journaliste, ajoutant que le roi Salman d'Arabie Saoudite lui avait dit dans une conversation téléphonique tout ignorer de ce qui avait pu arriver. Monsieur Trump a dépêché à Riyad son secrétaire d'État Mike Pompeo pour tenter de faire la lumière sur cette affaire. Jamal Khashoggi était connu pour ses critiques contre la famille royale, le prince héritier Mohamed Ben Salman en particulier.
Afrique maintenant, poursuite des violences aux Comores, archipel de l'océan Indien. Pour la deuxième journée consécutive, des affrontements à l'arme automatique opposent l'armée comorienne à des manifestants hostiles au régime du président Sali Assoumani. Ce mardi, dans les rues de Moutsamoudou, le chef-lieu de l'île d'Anjouan. Et ce, sur fond de vives tensions politiques dans le pays depuis des mois. Les premiers incidents ont éclaté hier quand des protestataires ont érigé des barrages à Moutsamoudou, un fief de l'opposition. Les autorités accusent le parti d'opposition du roi d'être à l'origine des troubles et elles ont imposé dès lundi soir un couvre-feu nocturne sur place. Moutsamoudou est totalement paralysé et la majorité de la population reste cloîtrée chez elle, mais l'armée hésite à entrer en force dans le quartier de la Médina où des manifestants armés se sont regroupés selon des témoins. Dans un communiqué commun, les partis d'opposition attribuent au gouvernement la responsabilité de la situation. À Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, la Cour constitutionnelle a donné son feu vert au report des élections législatives dont le premier tour était prévu le 25 novembre. En outre, le mandat des députés a été prorogé jusqu'à la fin du premier semestre de 2019. Compte rendu du correspondant de VOA Afrique à Bamako, Kassim Traoré.
Les députés et les potentiels candidats pour l'élection législative attendaient la suite de la Cour constitutionnelle. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a fait une saisine pour avoir l'avis de la Cour sur le report de l'élection législative. La Cour constitutionnelle, qui est le juge de la constitutionnalité des lois, cette disposition de la loi fondamentale malienne en son article 85 a été appliquée par la Cour constitutionnelle. Elle donne ainsi un avis favorable à la prorogation du mandat des députés jusqu'à la fin du premier semestre 2019 en application de l'article 85 de la Constitution. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a fondé sa demande d'avis sur des difficultés sérieuses qui compromettent le respect des dispositions de l'article 167 de la loi électorale. Pour ne pas dire des difficultés pour les candidats d'avoir des documents constitutifs pour leur candidature. Cela se comprend aisément parce qu'il y a plus de 80 jours que les magistrats maliens sont en grève illimitée. Chose qui bloque la délivrance du casier judiciaire, document incontournable pour les candidatures. C'est pour cela que la Cour constitutionnelle, en se basant sur ses arguments de l'Assemblée nationale, a jugé nécessaire de reporter les législatives du 25 novembre prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Toujours concernant les élections en Afrique, en Côte d'Ivoire, l'officialisation de la victoire du candidat du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, au plateau, le quartier des affaires d'Abidjan, a fait baisser la tension sur place. Mais il y a eu des incidents dans d'autres parties du pays, notamment à Grand Bassam. Le point avec Abdourahmane Dia.
Les partisans de Jacques Ewo ont explosé de joie. La commission électorale indépendante a annoncé la victoire de leur candidat au plateau, la commune la plus riche du pays. Fabrice Savignon, soutenu par la coalition du président Ouattara, avait déjà reconnu sa défaite. Cependant, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix contrôle la capitale économique avec ses victoires dans les communes de Koumassi, Trècheville, Yopougon et Abobo, les deux plus grands quartiers populaires. La commission électorale indépendante a aussi annoncé la victoire à Grand Bassam du RHDP, générant des troubles dans la cité balnéaire. Plus de 6 millions d'Ivoiriens étaient appelés à voter samedi à ces élections locales. Le principal enjeu était de mesurer les forces avant la présidentielle de 2020. Le PDCI, qui a soutenu Alassane Ouattara en 2010 et 2015, a claqué la porte de la coalition. Ce parti tient depuis lundi un congrès extraordinaire à Daoukro, le fief de l'ancien président Henri Konan Bédié.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, les autorités annoncent qu'elles menaient une enquête sur l'expulsion massive de quelque 200 000 Congolais par l'Angola, sur fond d'accusations de violence. Des allégations graves selon Kinshasa. Les détails avec Nani Talani.
Selon Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est chargé de recueillir des informations et de mener des investigations sur cette affaire d'expulsion des Congolais par l'Angola. Les allégations sont très graves. Le gouvernement réagira officiellement dans les prochains jours. Des témoignages font état d'expulsions violentes, voire de morts de Congolais, ce que l'Angola dément, parlant de retour volontaire. Dans une lettre à l'ambassadeur d'Angola à Kinshasa, une ONG, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, recommande au gouvernement angolais de faire mener une enquête crédible sur les exactions afin de faire sanctionner leurs auteurs. L'ONG demande aussi aux autorités angolaises de veiller à ce que les expulsions des immigrants se fassent dans les conditions qui respectent les droits de l'homme, notamment le droit à l'intégrité physique et à la vie. Des mesures spécifiques de protection doivent être prises en faveur des femmes, enfants et vieillards.
Ebola en République démocratique du Congo, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, annonce la tenue d'une réunion de son comité d'urgence sur l'épidémie d'Ebola en cours dans le pays. Les précisions de Yacouba Ouédraogo.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a annoncé que le comité se réunit demain, 17 octobre, à Genève, pour déterminer si la flambée épidémique constitue une urgence de santé publique de portée internationale. L'OMS a procédé ainsi en 2014, lorsque l'épidémie d'Ebola a touché plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, et en 2016 pour le virus Zika en Amérique latine. Cette épidémie d'Ebola sur le sol congolais a été déclarée le 1er août à Mangina, dans le nord Kivu, dans l'est de la RDC. Depuis, l'épicentre de l'épidémie s'est déplacé à Beni, une zone où les rebelles ougandais des ADF multiplient les attaques contre les civils, compliquant la riposte sanitaire. Selon les statistiques de l'OMS, le total de cas signalés s'élève à 211, dont 135 morts. D'après Oli Ilunga, ministre congolais de la Santé, un membre de la MONUSCO a pour la première fois été contaminé par le virus Ebola. Plus de 16 200 personnes ont pu être vaccinées.
Union africaine, plus de 40 pays africains travaillent désormais ensemble pour lutter contre le terrorisme, le crime organisé et les délits électroniques via Afripol, l'organisation de coopération policière à l'échelle continentale. C'est ce qu'a déclaré le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine lundi à Alger. Morgan Guiriek nous en dit plus.
Ce mécanisme de coopération policière de l'Union africaine possède désormais des bureaux de liaison dans 40 pays, a souligné Smaïd Chirgi à l'ouverture de la deuxième assemblée générale d'Afripol, regroupant les chefs de police des États membres. Afripol va concentrer ses efforts sur la lutte contre le terrorisme, les crimes transnationaux et les crimes électroniques et signera en janvier un accord de coopération avec Interpol, a ajouté M. Chergui. Le ministre algérien de l'Intérieur, Noureddine Bédoui, a de son côté appelé à une approche africaine commune de coopération et d'échange afin de faire face aux principaux défis du continent en matière de sécurité, notamment le terrorisme, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue et la cybercriminalité. Afripol est destiné à favoriser l'échange de renseignements entre les polices africaines. Son siège est à Alger, où s'est tenue sa première assemblée générale l'année dernière.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.